3. Susanna Mia mit la tortue dans la poche de son jean et se força à attendre 20 minutes sur le banc du parc. Elle en passa la plus grande partie à admirer ses jambes toutes neuves. Quel que fût leur propriétaire, elles étaient ravissantes, et à gigoter ses nouveaux doigts de pied dans ses nouvelles chaussures. Volées. Elle ferma aussi les yeux, essayant de convoquer la salle de contrôle du Dogan. D'autres diodes d'alerte s'étaient allumées entre-temps, et en sous-sol, les machines vibraient de plus en plus fort. Pourtant, l'aiguille du cadran Susanna Mio avait à peine pénétré dans le jaune. Des fissures étaient apparues au sol, comme elle l'avait prévu. Mais jusque-là, rien de très sérieux. La situation n'était pas des plus reluisantes, mais elle se dit qu'il pourrait s'en accommoder, pour le moment.
« Qu'est-ce que tu attends ?»
s'impatienta Mia.
« Pourquoi reste-t-on assise ici ?»«
Je laisse aux Suédois la possibilité de se charger de notre petite course à l'hôtel et ensuite de déguerpir, » répondit Susanna. Et lorsqu'elle estima qu'elle lui avait laissé assez de temps, elle réunit ses sacs, se leva, traversa la 2e avenue et se mit à descendre la 46e rue en direction de l'hôtel Plaza Park. 4. Le grand hall était baigné de la belle lumière de l'après-midi, que reflétaient les angles de verre vert. Jamais Susanna n'avait vu de pièce aussi splendide, en dehors de Saint-Patrick, bien sûr. Mais elle avait aussi quelque chose d'étrange, de décalé.
« C'est parce que c'est l'avenir, » se dit-elle.
Dieu sait que les signes sautaient aux yeux. Les voitures paraissaient plus petites et complètement différentes. La plupart des jeunes femmes qu'elle croisait se promenaient le ventre à l'air et on voyait les bretelles de leur soutien-gorge. Susanna dut voir le phénomène se répéter 5 ou 6 fois le long de la 46e rue avant de se convaincre qu'il s'agissait là d'un effet de mode bizarre et non d'une négligence. De son temps, une femme qui aurait exposé sa bretelle, ou encore 1 cm² de combinaison qui allait voir du pays, comme on disait, se serait précipitée dans les toilettes publiques les plus proches pour tout remettre en place, et au pas de charge. Quant à montrer un ventre nu, on se serait fait arrêter partout, sauf peut-être à Coney Island, se dit-elle. Aucun doute là-dessus.
Mais la chose qui lui fit la plus forte impression fut aussi la plus difficile à définir.
La ville paraissait tout simplement plus grande. Elle tonnait et bourdonnait autour d'elle. Elle vibrait. Chaque bouffée d'air portait la signature de son odeur intime. Les femmes attendant un taxi à la sortie des hôtels, avec ou sans bretelles apparentes, étaient bien des New-Yorkaises, impossible de se méprendre. Les portiers, non, pas un, mais 2 par entrée, interpellant les 10 taxis, ne pouvaient être que des portiers new-yorkais. Les taxis. Elle était éberluée par le nombre de noirs qu'elle voyait au volant, et elle en aperçut même 1 coiffé d'un turban. Ne pouvaient être que des taxis new-yorkais, mais ils étaient tous différents. Le monde avait changé. C'était comme si son New York, celui de 1964, était un club de foot amateur. Et là, on jouait pro.
Une fois dans le hall, elle fit une pause pour sortir la tortue miniature de sa poche et se repérer dans les lieux. À sa droite, elle remarqua un salon. Deux femmes y étaient assises, en train de discuter, et Susanna les observa un moment. Ne pouvant croire qu'on puisse montrer autant de jambes sous une jupe.
Quelle jupe, au fait?
Et il ne s'agissait ni d'adolescentes, ni d'allumeuses. C'étaient des femmes de 30 ans, au moins. Même si elle ne put s'empêcher de se dire qu'elles avaient aussi bien la 60aine. Qui savait ce que le progrès de la science avait été capable d'accomplir en 35 ans? À droite, une petite boutique. Quelque part dans l'ombre, derrière elle, un piano égrenait un air délicieusement familier. Night and Day. Et Susanna savait qu'en suivant la mélodie, elle trouverait des tas de fauteuils en cuir, de bouteilles étincelantes et un monsieur en veste blanche qui serait ravi de la servir, même si on n'était encore qu'au beau milieu de l'après-midi. Et tout ça était très réconfortant. Juste en face d'elle se trouvait le guichet de la réception. Et derrière, la créature la plus exotique que Susanna ait vue de sa vie. Elle avait l'air à la fois blanche, noire, chinoise, le tout battu ensemble. En 1964, on aurait traité cette femme de bâtarde, peu importait sa beauté. Alors qu'ici, elle se retrouvait dans un tailleur magnifique, à l'accueil d'un grand hôtel. La tour sombre avait beau trembler sur ses fondations, et le monde être en train de changer. Pour Susanna, cette hôtesse était la preuve, si besoin était, que tout ne s'écroulait pas et que tout n'allait pas dans la mauvaise direction. La jeune femme parlait avec un client se plaignant de sa note de câble. Dieu seul savait de quoi il s'agissait.
« Peu importe, c'est l'avenir, » se dit une fois de plus Susanna. « C'est de la science-fiction, comme la cité de Lude. Autant s'en tenir à ça. »
« Je me fiche de ce que c'est et de la date, » l'interrompit Mia. « Tout ce que je veux, c'est trouver un téléphone. Je veux voir mon petit gars. »
Susanna passa devant un panneau posé sur un trépied, puis fit marche arrière et y regarda de plus près. À partir du 1er juillet 1999, l'hôtel Hyatt Plaza Park de New York change de nom et devient l'hôtel Regal Plaza des Nations Unies. Encore un projet gagnant de Sombra North Central. Et Susanna se dit
« Sombra, comme dans le complexe immobilier de la baie de la Tortue, qui ne s'était jamais construit, à en juger par cette aiguille en verre noir, là derrière. Et North Central, comme dans North Central Positronics. Intéressant. »
Un élancement lui vrilla soudain la tête.
Un élancement?
Bon sang, un coup de poignard, oui. Elle en eut les larmes aux yeux, et elle sut qui en était à l'origine. Mia, qui n'avait cure de Sombra Corporation, de North Central Positronics, ou de la Tour Sombre même, s'impatientait. Susanna sut qu'il lui faudrait y remédier, au moins essayer. Mia était obnubilée par son petit gars, mais si elle voulait garder ce petit gars, elle avait intérêt à élargir un tout petit peu son champ de vision.
« Elle va pas te lâcher d'une semelle !» intervint Détat d'une voix pleine d'astuce, de force et de bonne humeur. « Tu le sais, Pavé ?»
Elle le savait. Susanna attendit que l'homme avec son problème de câble ait fini d'expliquer qu'il avait commandé le film classé X par accident et qu'il se moquait de le payer tant qu'il n'apparaissait pas sur sa facture. Puis elle s'approcha du comptoir. Son cœur battait à tout rompre.
Je crois que mon ami, Mathisen Van Wyck, a réservé une chambre à mon nom, dit-elle.
Elle vit l'employé jeter un œil à sa jupe tachée avec un air de désapprobation polie, et elle rit nerveusement.
J'ai vraiment hâte de prendre une bonne douche et de me changer. J'ai eu un petit accident au déjeuner. Oui, madame. Une seconde, je vous prie.
Elle vit l'employé se tourner vers ce qui ressemblait à un petit écran de télé avec une machine à écrire accrochée dessus. Elle appuya sur quelques touches, regarda le moniteur, puis demanda
« Susanna Mijadin, c'est bien cela ?»«
Un « vous dites vrai », je dis grand merci », lui monta aux lèvres, et elle le censura in extremis.
« Oui, c'est exact. Puis-je voir une pièce d'identité, je vous prie ?»
L'espace d'une seconde, Susanna eut le sifflet coupé. Et puis elle fouilla dans son sac et en sortit un orisa, en prenant garde de le saisir par le bord non tranchant. Elle se remémora subitement une phrase qu'elle avait entendue Roland dire à Wayne Overholser, le gros rancher de la Cala.
« Notre affaire à nous, c'est le plomb. Les Ritza n'étaient pas des balles, mais ils les valaient largement. »
D'une main, elle maintint le plat en hauteur, et de l'autre, la petite tortue sculptée.
« Est-ce que ça fera l'affaire ? »
demanda-t-elle d'une voix avenante.
« Qu'est-ce que... »
commença la belle employée. Puis elle se tut et son regard passa du plat à la tortue. Alors, ses yeux s'arrondirent et se mirent à briller légèrement. Ses lèvres, recouvertes d'un intéressant revêtement rose brillant, Susanna se fit la réflexion que ça ressemblait plus à du bonbon qu'à du rouge à lèvres. S'entr'ouvrir. Un doux soupir s'éleva.
« Oh, c'est mon permis de conduire, » ajouta Susanna. « Vous voyez ?»
Par chance, il n'y avait personne alentour, pas même un porteur de bagages. Les clients, qui avaient quitté leur chambre le jour même, attendaient sur le trottoir, se battant pour un taxi. Dans le hall, l'ambiance était feutrée. Dans le bar, derrière la boutique de cadeaux, une version introspective et paresseuse de Stardust succéda à Night and Day.
Permis de conduire ?
Acquiesça l'employé dans ce même soupir émerveillé.
Bien, faut-il que vous écriviez quelque chose ? Non, Monsieur Van Wyck a réservé la chambre. Il faut seulement que je... Puis-je tenir la tortue, madame ?
Non. Répondit Susanna. Et alors la jeune femme se mit à pleurer. Susanna observait ce phénomène avec perplexité. Elle ne se rappelait pas avoir fait pleurer tant de gens depuis son récital de violon, une catastrophe, à l'âge de 12 ans.
Non, je ne peux pas la prendre,
dit l'employé, laissant libre cours à ses larmes.
Non. « Non, je ne peux pas, je ne peux pas la prendre. Oh, Discordia, je ne peux pas arrêter un peu les pleurnicheries, »
fit Susanna. Et la femme se tut immédiatement.
« Donnez-moi la clé de la chambre, s'il vous plaît. »
Mais au lieu d'une clé, elle lui tendit une carte en plastique dans un petit étui. À l'intérieur de l'étui, pour le cacher aux yeux d'éventuels voleurs sans doute, était inscrit le nombre 1919. Ce qui ne surprit pas du tout Susanna. Bien entendu, Mia s'en moquait éperdument. Elle vacilla légèrement sur ses jambes, se balança d'avant en arrière, Elle dut agiter la main pour retrouver son équilibre, celle tenant le permis de conduire. Pendant une seconde, elle crut qu'elle allait tomber par terre, puis tout rentra dans l'ordre.
« Madame ?»
fit l'employé, l'air distraitement, très distraitement inquiet.
« Vous vous sentez bien ?»«
Ouais, » répondit Susanna.
« C'est juste que j'ai failli perdre l'équilibre pendant une seconde. »«
Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?» se demanda-t-elle intérieurement. Oh, mais elle savait très bien ce qui s'était passé. C'était Mia qui contrôlait les jambes. Mia. Susanna avait beau être aux commandes depuis leur rencontre avec ce bon vieux monsieur, pourrais-je prendre la scolpata ? Son corps était en train de revenir à son état premier. La version sans mollet. Incroyable, mais vrai. Son corps lui faisait un coup à la Susanna.
« Et Mia, on se réveille. À toi de prendre le relais. »«
Je peux pas, pas encore. Dès qu'on sera seul, je le ferai. »
Et doux Jésus, Susanna reconnut bien ce ton. Cette garce faisait sa timide. Elle se tourna vers l'employé.
« Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une clé ?»«
Eh bien, oui, Saïe. Elle vous servira aussi dans l'ascenseur. Vous la glissez dans la fente, dans le sens de la flèche, puis vous la retirez rapidement. Quand la petite lumière sur la porte passe au vert, vous pouvez entrer. J'ai un peu plus de $8,000 dans le tiroir de mon bureau. Je vous les donnerai volontiers, en échange de cette jolie petite chose que vous avez là, votre tortue, votre scolpata, votre tortuga, votre cavite, votre...
Non,
dit Susanna, chancelant une nouvelle fois. Elle s'accrocha au bord du comptoir. C'en était fini de son équilibre.
Je vais monter maintenant.
Elle avait pensé commencer par une visite à la boutique de l'hôtel, histoire de dépenser un peu du fric de Mats pour s'acheter une chemise propre, s'ils avaient ce genre de marchandises. Mais il faudrait que ça attende. Tout allait devoir attendre.
Oui, Sai.
Plus de madame, plus maintenant. La tortue agissait sur elle, comblant les interstices entre les mondes.
Oubliez que vous m'avez vu, d'accord ?
Oui, Sai. Dois-je mettre votre téléphone en dérangement ?
Mia se mit à vociférer. Susanna ne prit même pas la peine de l'écouter.
Non, ne faites pas ça. J'attends un appel.
Comme vous voudrez, Sai.
Les yeux vissés sur la tortue. Toujours sur la tortue.
Bon séjour au Plaza Park. Voulez-vous qu'un porteur vous aide à monter vos bagages?
J'ai une toncha à avoir besoin d'aide pour poter ces toits malheureuses, Med,
pensa Detta. Mais Susanna se contenta de secouer la tête.
Très bien.
Susanna se retourna, mais fit volte-face en entendant l'employé prononcer
« Bientôt viendra le roi, avec son œil. »
Susanna fixait la jeune femme, bouche bée, presque en état de choc. Elle sentit la chair de poule remonter le long de ses bras. Cependant, le beau visage en face d'elle demeurait serein. Des yeux noirs posés sur la tortue miniature. Des lèvres entr'ouvertes, miroitantes de salive autant que de gloss.
« Si je reste une minute de plus, se dit Susanna, elle va se mettre à baver. »
Susanna aurait donné cher pour creuser cette histoire de roi et d'œil, parce que c'était son histoire, et elle le pouvait. Après tout, c'était elle qui était aux commandes. Mais de nouveau, elle vacilla et sut qu'elle ne pouvait rien faire.
à moins de ramper à quatre pattes jusqu'à l'ascenseur, son jean vide en dessous du genou traînant derrière elle.
Plus tard, peut-être,
se promit-elle, sachant que c'était peu probable. À présent, les choses bougeaient trop vite. Elle traversa le hall, titubant avec dignité. Dans son dos, elle entendit la voix de la jeune employée, pleine d'aimables regrets, rien de plus.
« Quand le roi viendra et que la tour s'effondrera, Saïe, toutes les jolies choses comme celles que vous avez là seront brisées. Puis viendront les ténèbres, et rien d'autre que le mugissement de Discordia et les cris des Cantois. »
Susanna ne répondit pas. Bien que la chair de poule eût à présent gagné sa nuque, et qu'elle sentît son cuir chevelu rétrécir littéralement sur son crâne, ses jambes, les jambes de quelqu'un en tout cas, perdaient rapidement toute sensibilité. Si elle avait pu jeter un œil à sa peau nue, aurait-elle constaté que ses jolies jambes toutes neuves étaient en train de devenir transparentes? Aurait-elle vu le sang coulant dans ses veines, rouge vif en descendant, plus sombre et épuisé en remontant vers le cœur, et les entrelacs compliqués des muscles? Elle pensait que oui. Elle appuya sur le bouton « Monter », puis rangea l'Orisa dans son sac, priant pour que l'une des trois portes s'ouvre avant qu'elle ne s'évanouisse. Le pianiste avait opté pour « Stormy Weather ». La porte du milieu coulissa. Susanna Mia entra et appuya sur le 19. La porte se referma, mais l'engin ne bougea pas.
« La carte en plastique, » se rappela-t-elle. « Il faut que tu te serves de la carte. »
Elle aperçut la fente et glissa la carte dedans, en prenant garde à la direction de la flèche. Cette fois, lorsqu'elle appuya sur le 19, la touche s'alluma. Quelques secondes plus tard, elle se retrouva violemment écartée et Mia repassa devant. Susanna se réfugia à l'arrière de son propre esprit avec une sorte de soulagement fatigué. Oui. Que quelqu'un prenne le relais, pourquoi pas? Que quelqu'un d'autre prenne les commandes, un petit moment. Elle sentait force et solidité revenir dans ses jambes, et c'est tout ce qui comptait, pour l'instant. 5. Mia avait beau se retrouver étrangère en pays inconnu, elle apprenait vite. Dans le hall du 19e étage, elle localisa le panneau 1911-1923 et descendit le couloir d'un pas rapide jusqu'au numéro 1919. La moquette, un truc vert et épais, délicieusement mou, chuchotait sous ses chaussures. Volée. Elle inséra la carte-clé dans le mur, ouvrit la porte et entra. Il y avait deux lits. Sur l'un d'eux, elle posa les sacs, puis promena sur la pièce un regard distrait, jusqu'à ce qu'il rencontre le téléphone.
« Susanna !»
Impatiente.
« Quoi ? Comment faire pour qu'il sonne ?»
Susanna partit d'un rire sincère.
« Chérie, cette question-là, tu n'es pas la première à te la poser, tu peux me croire. On a été des millions avant toi. Ou bien il sonnera, ou bien il ne sonnera pas, le moment venu. En attendant, pourquoi tu ne ferais pas le tour du propriétaire, histoire de trouver un coin où ranger ton guna ? »
Elle s'attendait à une dispute, mais rien ne vint. Mia arpenta la pièce, sans prendre la peine d'ouvrir les rideaux, alors que Susanna aurait donné cher pour voir la ville d'aussi haut, passa la tête par la porte de la salle de bain, un vrai palais avec ce qui ressemblait à un lavabo en marbre et des miroirs partout. Puis jeta un œil dans le placard. Là, au-dessus d'une étagère où étaient posés des sacs en plastique pour le pressing, se trouvait un coffre-fort. Il y avait un panneau, mais Mia ne pouvait le déchiffrer. Roland se retrouvait parfois confronté au même problème, mais c'était dû aux différences entre l'alphabet de ce monde et les grandes lettres du monde de l'intérieur. Susanna se doutait bien que les problèmes de Mia étaient beaucoup plus élémentaires. Si sa ravisseuse connaissait de toute évidence les chiffres, Susanna avait comme l'impression que la mère du petit gars était bien incapable de lire une ligne. Susanna passa de nouveau devant, mais pas complètement. Pendant une seconde, elle regarda deux panneaux à travers deux paires d'yeux, sensation tellement étrange qu'elle en eut la nausée. Puis l'image se précisa et elle put lire le message. « Ce coffre-fort vous est fourni gracieusement pour conserver vos objets personnels. La direction de l'hôtel Hyatt Plaza Park décline toute responsabilité en cas de vol. Nous vous recommandons de confier l'argent liquide et les bijoux au coffre de l'hôtel, au rez-de-chaussée. Pour enregistrer votre code, tapez 4 chiffres, puis validez par la touche « Entrée ». Pour ouvrir, tapez votre code à 4 chiffres et appuyez sur « Ouvrir ». Susanna se recula pour laisser Mia choisir son code. Elle opta pour un 1, suivi de 3-9. C'était l'année en cours, probablement l'une des premières combinaisons que tenterait un voleur, mais au moins ce n'était pas exactement le numéro de la chambre. De plus, c'était de bons chiffres, des chiffres puissants, un sigle, et elles le savaient toutes deux. Mia programma le coffre et vérifia qu'il fermait bien, puis elle suivit les instructions pour le rouvrir. Dans une sorte de vrombissement interne, la porte s'entr'ouvrit. Dans le coffre, Mia déposa le sac rouge fané aux armes de l'antre de quille. La boîte qu'il contenait tenait juste sur la planche à l'intérieur, puis celui contenant les plats d'Orisa. Elle verrouilla de nouveau la porte, vérifia en tirant sur la poignée, puis hocha la tête. Le sac Borders était toujours sur le lit. Elle en retira la liasse de billets et la glissa dans la poche avant droite de son jean, avec la tortue. « Il faut te trouver une chemise propre », rappela Susanna à son invité indésirable. Mia, fille de personne, ne répondit rien. À l'évidence, elle n'en avait rien à carrer des chemises, propres ou sales. Mia fixait le téléphone. Pour l'instant, maintenant que ses contractions étaient en suspens, ce téléphone était tout ce qui comptait pour elle. « Maintenant, on palabre, » dit Susanna. « Tu me l'as promis, et c'est une promesse que tu vas tenir, mais pas dans cette salle de banquet. » Elle frémit. « À l'extérieur. Entends-moi, je te prie. J'ai besoin d'air frais. Cette salle de banquet puait la mort. » Mia ne protesta pas. Susanna eut vaguement conscience que l'autre femme passait en revue les différents pans de sa mémoire, analysant, classant, analysant, classant, pour enfin trouver un souvenir utilisable. « Comment on s'y rend ?» demanda Mia d'un air indifférent. La femme noire qui était, à nouveau, double,
s'assit sur l'un des lits et croisa les mains sur ses cuisses.
« Comme sur un traîneau, »
répondit la partie Susanna.
« Je pousse, tu diriges. Et rappelle-toi, Susanna Millot, si tu veux que je coopère, tu dois me donner des réponses claires. »
« Je le ferai, » répondit l'autre. « Mais ne t'attends pas à les apprécier, ni même à les comprendre. »
« Qu'est-ce que tu... Peu importe. Dieu, je n'ai jamais rencontré personne qui pose autant de questions.
Le temps presse. Quand ce téléphone sonnera, notre palabre prendra fin. Alors si tu veux palabrer un tant soit peu... »
Susanna ne prit pas la peine de la laisser terminer. Elle ferma les yeux et se laissa tomber en arrière. Le lit ne vint pas arrêter sa chute. Elle le traversa directement. Elle tombait pour de vrai à travers l'espace. Elle entendait le carillon du Vahadash au loin, assourdi.
« Me revoilà, »
pensa-t-elle. Puis,
« Eddie, je t'aime. »
Soliste. Comala 4-5, quelle délice d'être vivant, n'est-ce pas? Pour chercher Discordia, quand la lune du démon paraîtra. Cœur. Comala 4-5, même quand se lèvent les ombres, voir et parcourir le monde nous rend heureux de belle façon.